Christiane Hervault et Jean-Paul Sauzède vous présentent
Dans la famille, il y a la mère et le père, ou deux pères, ou deux mères, ou 36 belles-mères, toutes les sœurs et les frères, un cousin boxeur, papy et grand-mère, tous nos êtres chers dans la famille.
Ah, la famille. Que bazar!
Bonjour, chers amis auditeurs et chères amies auditrices. Bonjour et bienvenue pour notre émission sur la famille. Ah, la famille, quel bazar! Nous le savons bien, nous le savons tous les jours que la famille, c'est un peu le bazar, quelquefois. Mais aujourd'hui, nous commençons notre série au sujet du couple. Alors, je dis série parce que vous vous doutez bien qu'une seule émission au sujet du couple, ce ne sera pas suffisant. Tellement le sujet est important et copieux. Alors, avant la décision de vivre en couple, quand même, il y a aussi beaucoup de questions. Celle du choix, le choix du ou de la partenaire avec laquelle on va vivre, et le choix du mariage ou non, du célibat ou non. Voilà, on va commencer peut-être tout simplement par parler du choix du ou de la partenaire, enfin de la personne en question. Comment est-ce que tout cela débute en fin de compte? Et Jean-Paul Sauzède, avec lequel je suis aujourd'hui, va converser avec moi sur ce vaste sujet. Bonjour
fait.
Jean-Paul.
Bonjour.
Nous sommes toujours ensemble. Vous savez que Jean-Paul est thérapeute et justement thérapeute de couple aussi. Donc il en connaît un rayon. Et donc voilà, et de lui-même est en couple, voilà, pas moi, donc ça fait deux avis peut-être,
ah oui,
deux trajectoires différentes, voilà. Alors dans ce qu'on pourrait appeler la rencontre, c'est-à-dire le tout début de la rencontre avec quelqu'un, ça peut se faire un peu n'importe où, dans la rue, dans une rencontre, dans une de nos activités, en paroisse, à l'église, voilà. Et du coup, il se passe quelque chose entre deux personnes. Ouf là là. Alors,
il y a
qu'est-ce qui peut se passer? Il peut y avoir un élan du cœur, un désir, une amitié peut-être qui commence, et puis après ça se bouscule, ça change, ou un coup de foudre carrément, et on a envie d'aller un peu plus loin. Et il y a des étapes peut-être dans cette rencontre. Est-ce qu'il y en a? Et lesquelles? Voilà, on peut peut-être débuter par ça, Jean-Paul Sauzède.
Ben oui.
Le début, la rencontre.
Puisqu'on est en train de parler du début, regardons comment nous commençons cette émission, ce qui n'est pas très simple. Effectivement, c'est toujours mystérieux, parce qu'on n'arrive pas à l'analyser, on n'arrive pas à le repérer de façon objective. Qu'est-ce qui fait que je choisis ce partenaire ou cette partenaire-là? Qu'est-ce qui fait que je m'attache et que du jour au lendemain, je suis pris, je suis capté psychiquement, émotionnellement, sexuellement par une personne qui m'attire, au-delà peut-être parfois de la raison ou de critères objectifs, d'ailleurs lesquels seraient des vrais critères. C'est intéressant parce que les gens qui vont sur des sites de rencontres, parce qu'aujourd'hui, quand on a 30 ans, 40 ans, ben, c'est pas toujours très simple de rencontrer un partenaire. Donc, moi, je fais l'éloge des sites de rencontres ou des agences matrimoniales, avant c'était s'appelait comme ça, qui permettent de faire des rencontres quand on a le désir d'être en couple. Et c'est intéressant que les gens qui vont sur des sites de rencontres, ils ont des critères. Des critères d'âge, des critères de fortune, de milieu social, d'intérêt culturel, sportif, de loisirs ou autre. Ok, c'est très bien. Puis en fait, au-delà de tous ces critères, ben c'est est-ce que l'autre va me plaire? Et pas seulement physiquement, est-ce que je vais me sentir bien avec lui ou avec elle? Et à quoi ça tient? Ben ça reste un mystère. C'est tellement mystérieux que du coup, on a vite glissé pour dire « Ah ben oui, c'est le hasard, donc c'est Dieu peut-être, c'est le mystère de l'existence. » Peut-être c'est tout ça. Les psychologues vont dire « Ah ben non, ce qui fait qu'on se choisit amoureusement, c'est que dans la personne qui t'attire, il y a quelque chose qui te rappelle. » Peut-être le profil de ta mère, le profil de ton père, c'est un son de voix, parfois c'est un comportement, c'est une manière d'être en société, c'est une façon de rire, de se tenir, c'est un mouvement dans le corps qui fait que tout à coup je suis attiré par cette personne, Mais pourquoi par celle-là ? Sans doute parce qu'elle vient me rappeler, me remémorer, réactualiser quelque chose de mon histoire, d'un personnage que j'ai aimé, que j'ai apprécié, qui était important pour moi. On va dire tout simplement, souvent ça renvoie à notre père et à notre mère, assez bizarrement. Hein. En dépit même des différences d'âge, de différences de culture, mais il y a quelque chose de, sans doute de ça qui se rappelle, qui se remémore, qui se réactive. Voilà, donc il y a une hypothèse du hasard, on pourrait dire, il y a une hypothèse autour du lien psychologique ou d'une remémoration inconsciente, en tout cas non consciente, de quelqu'un qui nous est cher. Et puis, il peut y avoir, bien sûr, l'effet des phéromones. Hein, notre corps, en particulier, plus on est jeune, plus ça prend de la place, qui fait que j'ai de l'attirance, j'ai du désir, j'ai des pulsions, et que ça, pour moi, c'est important, et que j'ai envie de les exprimer avec ce garçon, cette fille-là, qui m'attire, dont je sens qu'il y a une vibration, il y a une sensation, il y a une émotion dans laquelle je rejoins et que j'ai envie d'acter, de mettre en œuvre dans une relation de dialogue, de rencontre physique, émotionnelle, verbale, de quotidien, qui fait que je m'attache à l'autre. Voilà, on pourrait avoir ces trois axes-là en tous les cas, mais rien n'est vraiment objectif et je ne crois pas que l'intelligence artificielle nous dira « Tiens, il faut que tu ailles rencontrer telle personne qui serait la bonne. » Parce que je crois que les critères sont tellement aléatoires et tellement complexes que le fait de choisir cette personne-là est toujours, reste pour moi un mystère. C'est intéressant, il y avait une fois un manager qui a voulu recruter son assistante, il a fait appel à un cabinet de recrutement qui lui a fait une proposition en disant voilà, c'est cette personne-là qu'il faut que vous preniez, celle qui correspond le mieux à vos critères, à votre profil, à votre demande. Et le manager, il a dit non, moi, c'est pas celle-là que je prendrais, c'est l'autre. Parce que l'autre, elle me plaît. L'autre, je la sens bien. Et il l'a choisi, et ça a fonctionné. C'est dire que au-delà des critères à nouveau objectif qu'on pourrait avoir, c'est comment je me sens bien avec cette personne, en dépit parfois de la raison ou en dépit de critères qui pourraient être objectifs. Qu'est-ce qui fait que je me suis mis avec cet homme-là, cette femme-là ? Alors on s'aperçoit aussi, c'est intéressant, et aujourd'hui, si vous regardez sur les sites internet, ils disent non, mais attendez 3 mois avant de vous engager, parce que c'est au bout de 3 mois qu'il commence à y avoir une désillusion. Dans ma pratique de thérapeute du couple, on disait souvent que les grandes crises de couple vont arriver au bout de 7 ans. Ça, c'est vrai pour les couples engagés. Je crois que pour les tout jeunes couples, c'est vrai qu'au bout de 3 mois, il y a une sorte de désillusion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce choix amoureux, qui n'est peut-être pas un choix, parce qu'il y a quelque chose qui me pousse d'un au-delà de moi-même, inconscient, peut-être spirituel, peut-être hormonal, qui me pousse à faire ce choix et aller vers cette personne. Au bout d'un moment, le réel prend le dessus sur toutes mes constructions fantasmatiques, sexuelles, de pulsions, où je prends conscience de la réalité de la personne et où là, la raison prend le pas sur toutes ces pulsions, sur tous ces mouvements inconscients, pour me dire, est-ce que vraiment c'est tel ou lui qui me convient, avec qui j'ai envie de continuer à développer une relation ? Et là, c'est vrai qu'il y a souvent des désillusions. Au bout de 3 mois, au bout de 7 ans, enfin, on peut discuter sur les périodes, c'est pas très intéressant. C'est comment, finalement, au bout d'un moment, là où j'ai été choisi, là où j'ai été poussé, là où j'ai été propulsé dans un coup de foudre, dans ce qu'on va appeler un coup de foudre, dans quelque chose qui me déborde, je redeviens acteur de mon choix la raison reprend le dessus pour regarder si, effectivement, j'ai envie de m'engager avec cette personne. Est-ce qu'elle me convient ? Est-ce qu'elle me correspond ? Mais elle me correspond, ça ne veut pas dire qu'on soit pareil, parce qu'on dit souvent ah ben, ce qui se ressemble s'assemble. Oui, peut-être, mais l'objectif d'un couple, ce n'est pas de trouver son âme sœur, comme on le dit pourtant bien volontiers. C'est de trouver une personne avec qui j'ai envie de cheminer pour répondre à l'injonction biblique de ne pas rester seul dans ma vie. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que la femme reste seule. Et c'est vrai que même les célibataires luttent contre leur célibat et leur solitude, pour vivre en groupe, pour vivre avec d'autres, pour partager des expériences. Et nous sommes toujours dans notre humanité, dans cette quête de l'autre, d'un autre, qui n'est pas nécessairement notre semblable, qui n'est pas nécessairement l'âme sœur, qui est encore moins la moitié, comme si pour être en couple, il fallait se couper en deux pour aller chercher son autre moitié. Non, c'est une rencontre, c'est une relation qui permet effectivement de la complétude, qui permet effectivement une sorte d'épanouissement de soi, de prolongation de soi, on pourrait dire. Mais chaque relation va être différente, chaque relation de couple va être différente, il n'y a pas de modèle. Et je crois que ça serait, en tout cas, un des messages moi, que je souhaite donner, c'est que il faut sortir de l'idée qu'il y aurait un modèle pour être en couple. Il n'y a pas de modèle. Le couple, c'est un artisanat et chacun est artisan de son couple. Et c'est tout un travail.
Oui, oui, oui. Alors là, vous avez déjà avancé beaucoup de choses. Donc, coup de foudre ou pas coup de foudre, en tout cas, élan ou désir de revoir quelqu'un qu'on a vu d'une manière ou d'une autre. Ou alors, oui, vous avez mentionné les sites internet, et c'est vrai que ça fonctionne beaucoup maintenant aussi comme ça. Alors, et c'est un peu un piège quand même, je trouve, souvent, les sites internet. Alors, on peut faire des très belles rencontres, et d'ailleurs, pour la vie entière, je dirais, moi, j'ai eu des amis qui se sont rencontrés par cette voie-là. Et ça a été formidable. Et ils sont toujours ensemble et ils ont fait un chemin extraordinaire tous les deux ensemble.
Bien sûr.
Et donc, quelquefois, oui, on a des critères un peu que l'on se pose ou s'impose en disant il faut que la personne soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et quelquefois, ça brouille un peu d'ailleurs. Ça peut brouiller l'élan, en fait, le premier élan.
Complètement.
Alors, vous avez parlé d'une durée peut-être de 3 mois ou quelque chose comme ça, ou des quelques fois, même si on n'a pas trop envie d'être trop pris par le cœur. Mais la raison reprend le dessus, comme vous avez dit. Alors, voilà, dans ce cheminement que l'on fait pour faire connaissance, en fait, avec l'autre, d'une certaine manière, il faut quand même connaître l'autre avant de s'engager, me semble-t-il. Et comment on peut... qu'est-ce qui est important d'avoir les yeux ouverts, quand même, donc de voir vraiment la réalité, parce que c'est pas... c'est pas dans des rêves hein, que ça se passe. Ça se passe après dans la vie quotidienne, tous les jours. Alors, on apprend sans doute beaucoup d'autres choses quand on vit ensemble, dont on n'avait même pas idée avant, sans doute. Mais quand même, pour pas trop se tromper gravement, comme ça peut arriver, gravement et rapidement d'ailleurs, des fois.
Mais peut-être qu'on pourrait dire l'inverse. Christiane, que l'enjeu, c'est que tout le monde se trompe. Je crois que ça serait plus juste de dire comme ça. Et qu'une relation, une relation amoureuse, elle a une part d'aveuglement. Parce qu'on ne veut pas voir l'autre tel qu'il est. On le voit tel qu'on voudrait qu'il soit. On le voit tel qu'on l'imagine qu'il est. On le voit dans une forme idéalisée. Avec cette illusion tragique hein, ben, chez beaucoup de couples madame pense qu'elle va changer monsieur sur tel ou tel point qui ne lui convient pas. Mais c'est pas grave, dit-elle. Je vais le changer. Et monsieur se dit non, mais avec le temps, elle changera aussi. Or non, on ne change jamais son partenaire et il faut arrêter de croire ça parce que c'est une perte d'énergie, de temps, d'irrespect aussi de ne pas accueillir l'autre tel qu'il est. Et je crois que c'est une grande illusion. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que effectivement, le couple, quand il démarre, il est sur une forme d'idéalisation de la relation, ben voilà, poussé par toute cette émotion, toute cette énergie de vie, toute cette sexualité, ce désir hein, qui peut être sexuel ou pas, mise en pratique dans la sexualité, puis d'autres couples diront non, on va attendre, bon, ok, c'est des choix, mais le désir est là, la sexualité est là, ça peut être tellement puissant et tellement impérieux, je dirais, que ça n'autorise pas à regarder l'autre dans ses failles, dans ses limites. Et je trouve que c'est intéressant pour ça, tout ce qu'on pratiquait et qu'on pratique encore dans les églises, de préparation au mariage. Je trouve que c'est des enjeux un peu difficiles parce que le couple est tellement dans ses projets, dans l'espérance, dans l'enthousiasme de la rencontre, qu'il imagine mal tout ce travail qui pourtant est un travail de prévention pour moi, pour éviter les crises et pour éviter des ruptures trop rapides. Il y a quand même beaucoup de couples qui divorcent au bout d'une année ou deux ans de mariage, ce qui est quand même dommage. C'est un coup social, c'est un coup psychique, c'est un coup affectif difficile. Donc je trouve que la préparation au mariage, elle sert à ça, à vérifier, à se donner les moyens d'échanger suffisamment ensemble pour vérifier qui est qui. Et est-ce qu'on est prêt à développer ensemble une vie quotidienne avec un projet professionnel, avec l'investissement d'une maison, la construction éventuelle d'une famille, enfin tous ces aspects-là. Et le couple est tellement pris dans son désir amoureux que bah, bien sûr il n'y a pas de problème, en plus on s'aime donc tout va aller bien. Non, c'est une grande illusion, c'est un mensonge qu'on se fait. Et c'est pas parce qu'on s'aime que ça va aller bien, c'est parce qu'on s'aime au contraire que ça pourrait ne pas aller bien, parce que justement on a du mal à regarder la réalité. Et nous, ce qui nous touche quand on fait de la thérapie du couple, c'est de voir arriver des couples qui étaient amoureux, qui étaient convaincus d'avoir fait le bon choix, qui étaient dans la joie de cette rencontre et de cette relation amoureuse naissante et qui, à un moment, tombent de l'échelle en se disant « mais non, l'autre n'est pas celui que j'attendais ». Je me souviens d'une femme qui disait, mais un matin, je me suis réveillée, j'ai regardé mon mari dans le lit, mais et elle s'est dit, mais je ne le reconnais pas, c'est pas lui que j'ai épousé. Or, c'était bien lui, il n'y a pas de doute. Mais elle n'avait pas vu. Et tout à coup, elle découvrait son mari pour qui il était. Donc, je trouve que c'est douloureux pour les couples. Et en même temps, un couple ne va exister que parce qu'il aura traversé une première crise. C'est-à-dire que parce qu'il se sera confronté au réel et qu'il aura découvert que l'autre n'est pas ce qu'il imaginait, mais qu'il est quelqu'un d'autre. Et qu'il est aussi aimable. Et qu'on peut continuer ensemble. Différemment, mais on peut continuer ensemble. Et c'est là que le couple se construit. La grande première crise du couple, c'est vraiment la crise de la désillusion. Ce qu'on appelle dans notre jargon la crise de la fusion à la différenciation. Le passage de la fusion à la différenciation. Le passage de où on a l'impression qu'on est l'un pour l'autre, on est un et un égal un, tellement on est proche, on est l'âme sœur, la moitié, etc. Ce que je disais tout à l'heure. À découvrir tout à coup que ben non, c'est pas si simple. Et que là où on croyait être fusionnel, tellement amoureux, que non, il y a de la différenciation. On n'est pas comme on pensait, et que peut-être il y a de la différence et de la différenciation entre nous. Il va s'établir une forme de distance, et cette distance est saine, au sens elle va permettre de la respiration, elle va permettre d'exister à chacun des individus, et de pouvoir se retrouver en couple, réexister en tant qu'individu, se retrouver en couple. Et c'est cette respiration-là, entre l'individu et le couple, qui va être salutaire pour le couple.
Mais avant que le couple donc soit couple, je dirais, parce que là vous êtes déjà dans le couple qui est couple, peut-être avant peut y avoir un long temps de maturation ou un court temps de maturation, ça dépend des personnes. Moi, par exemple, j'ai des amis qui m'ont dit on a été amoureux très vite et voilà, on s'est mariés au bout de 6 mois, on était convaincus et ça roule,
pas.
Quoi.
Oui,
ça roule
bien.
Très bien. Donc, mais pour d'autres, c'est beaucoup plus long. Et peut y avoir ce temps qui est déjà un peu un couple, mais sans en être vraiment un, où on arrive à se rencontrer de plus en plus souvent, voilà. Et où la confiance peut s'établir, peut-être. Et donc, là, il y a cette phase, il me semble, qui, quelquefois, est compliquée. Est-ce que je peux faire vraiment confiance à l'autre ? Est-ce qu'il est sincère ? Elle est sincère ? Dans nos échanges, des fois, justement, j'apprends à la connaître ou à le connaître. Et j'arrive pas à dire ce que je pense vraiment ou être vraiment moi-même. Donc, du coup, je sais plus trop où j'en suis. Et bien sûr, c'est fluctuant. Les émotions, les sentiments, l'amour. Alors là, c'est un grand mot. On sait plus trop ce que c'est, du coup. Et qu'est-ce que c'est l'amour, hein ? Vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Donc, quelles sont peut-être les choses auxquelles on doit faire quand même attention ? Pour rester soi-même, être soi-même et apprendre à vraiment se connaître pour que les désillusions ne soient pas la catastrophe.
Oui.
Je dirais.
Je vais repartir un peu en amont Parce qu'il y a une question que nous nous posons souvent quand on forme des thérapeutes du couple, donc des professionnels qui accompagnent des couples qui sont en souffrance. On pose souvent cette question qui est, qu'est-ce qui fait qu'un couple est un couple ? Et c'est intéressant comme question parce qu'il n'y a pas qu'une réponse. Alors on pourrait dire, bah oui, c'est deux personnes qui s'aiment. D'abord, ce n'est pas qu'un homme ou une femme, ça peut être aussi deux hommes, deux femmes. Parfois même, on voit aujourd'hui des troubles, donc des gens qui vivent à trois et qui décident de vivre à trois. Et c'est leur mode de fonctionnement, si ça leur convient. Donc ce n'est pas nécessairement un homme et une femme, c'est deux personnes qui décident, donc ça veut dire qu'il y a un engagement, qui décident pas nécessairement de vivre sous le même toit, parce qu'aujourd'hui on n'y est pas contraint. La loi nous demande, si on se marie, d'une assistance mutuelle, mais c'est tout. Donc c'est deux personnes qui ne se vivent pas nécessairement sous le même toit, qui s'aiment. Ça veut dire quoi, qui s'aiment ? C'est quoi l'amour en conjugal ? Qui ont de la sexualité, mais il y a plein de gens qui ont de la sexualité ensemble et qui ne sont pas pour autant en couple. Donc c'est extrêmement complexe de se dire, tiens, qu'est-ce qui fait qu'un couple est un couple ? Et je trouve que pour les auditeurs, c'est intéressant de vous dire, bah tiens, c'est quoi moi ma définition du couple ? C'est quoi qui fait qu'un couple est un couple ? Que je me sens ou pas en couple avec mon partenaire ou ma partenaire ? Après, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on peut toujours se donner un temps, ce qu'on appelait les temps de fiançailles, hein, ça paraît un peu désuet, mais ça n'est pas stupide, qui est un temps d'apprivoisement finalement, où on se regarde mutuellement, on s'apprivoise mutuellement, on se reconnaît mutuellement, pour se dire, tiens, est-ce que je peux avancer sur ce terrain-là de façon fiable ? Est-ce que le sol est suffisamment solide ? Est-ce que je peux faire confiance ? Est-ce qu'il y a de la sincérité ? Est-ce que le terrain est brouillé, encombré de ronces ? Est-ce que les histoires passées sont suffisamment éliminées, voire en tout cas traitées, si ce n'est éliminées ? Je pense en particulier aux couples recomposés, puisqu'on a parlé dans une émission précédente sur les familles recomposées. Et tout ce terrain-là de préparation demande à être discuté à deux, avant de se dire, ben oui, on peut y aller. Et en même temps, peut-être que le couple existe à partir du moment où il commence cette discussion et qu'il ne finira jamais d'en discuter. De qui je suis, d'où tu viens, quels sont tes modèles, quelles sont tes croyances, qu'est-ce que tu attends d'un couple, comment tu veux dépenser l'argent, notre argent, comment tu veux dépenser notre temps, est-ce que tu as besoin de temps à toi, du temps en couple, temps collectif, temps commun ou temps individuel. Enfin, toutes ces questions-là qui font le quotidien et qui n'arrêtent pas de se discuter. Alors, plus on avance en âge, plus le couple a pris ses habitudes, sa culture. Mais ça n'empêche qu'il y a des moments de crise pour tous les couples. Souvent, les couples n'en parlent pas ou en parlent peu. Ils disent qu'ils vont bien, mais en fait, on n'en sait rien. Mais ça fait partie du mouvement de la vie. Donc, certainement, il y a un temps de préparation avant de s'engager en couple pour dire, ben, ça y est, on est en couple. Quoique c'est intéressant parce que si on regarde sur les réseaux de jeunes, dès qu'ils ont une copine et qu'ils sont ensemble, 15 jours après, ils mettent « ça y est, je suis en couple ». Ce qui veut, je sais pas, ça veut dire quelque chose, je pense, pour eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ont de la sexualité, ça ne veut pas dire qu'ils vivent ensemble. Non, mais ils s'appartiennent mutuellement. Ils se laissent reconnaître vis-à-vis des copains et des copines comme étant en couple. Et sans doute que ça, pour eux, c'est leur définition. Être en couple, c'est qu'on s'appartient mutuellement. On est lié, on est engagé. Et voilà, et je trouve que quand on est adulte et qu'on veut démarrer une vie ensemble, quel est le moment qui sera suffisamment long pour se dire que je peux m'engager en toute sécurité ? Moi, je crois que le couple est toujours un risque parce qu'on ne se connaît pas soi-même, on ne se connaît pas vraiment l'autre, et que vivre la relation amoureuse, conjugale, c'est une aventure qui est aussi pleine d'incertitudes. Il faut accepter ça.
Avant de continuer cet échange très fructueux sur la rencontre et est-ce que j'ai fait le bon choix, donc là c'est le grand mystère, eh bien on va écouter une chanson de Clara Isée qui dit « On s'aimera, voilà, on s'aimera, on se retrouvera ». Voilà, donc on va l'écouter et puis après on se retrouve ensemble avec Jean-Paul Sauzet pour la suite de cette émission passionnante.
Thank you. c'est la tristesse de ce regard. Depuis quelques jours, je te sens hagard. Est-ce que tu la sens venir, la fin de notre histoire? Mais si le manque d'ivresse nous sépare, moi je veux garder ton amour et qu'épare comme boussole dans le noir. Un jour, je crois qu'on se retrouvera. Je garderai ton cœur soldat. Quand la vie nous réunira, on s'aimera, on s'aimera. Je crois qu'on se retrouvera. Je garderai ton cœur soldat. Quand la vie nous réunira, on s'aimera, on s'aimera. J'aime ta tendresse pleine d'espoir. Tout ce que tu donnes sans le savoir. Et la façon dont tu rêves le soir. Mais si le manque d'ivresse nous sépare, moi je veux protéger notre histoire comme boussole dans le noir. Un jour je crois qu'on se retrouvera. Je garderai ton cœur soldat. Quand la vie nous réunira, on s'aimera, on s'aimera. Je crois qu'on se retrouvera. Ses bras. Peut-être que plus vaste on sera, alors on s'aimera, on s'aimera. Un jour je crois qu'on se retrouvera. Je garderai ton cœur soldat. Quand la vie nous réunira, on s'aimera, on s'aimera. Je crois qu'on se retrouvera. Je garderai ton cœur soldat. Quand la vie nous réunira,
vous êtes bien sur Radio Alliance Plus, vous nous écoutez en DAB+, peut-être, ou en podcast sur le site radioallianceplus.fr. Et vous êtes dans l'émission À la famille Quai Bazar, avec Jean-Paul Sauzède et moi-même, Christiane Hervaux, pour parler de la rencontre amoureuse, le choix du ou de la partenaire, le début du couple, le béaba de... Des décisions peut-être de vivre longtemps ensemble, parce que le désir il est quand même pas de toujours être tous les jours avec quelqu'un d'autre, c'est compliqué quand même.
C'est compliqué.
Mais voilà, donc quand on a parlé un petit peu de ce mystère de la rencontre et du fait de se connaître petit à petit, de se faire confiance et d'être dans le réel aussi de la personne. Et quelquefois, il y a pas mal de peurs aussi qui viennent encombrer. Vous nous avez parlé des peurs peut-être par rapport à d'autres relations qu'on a pu avoir. Des choses donc qui nous tracassent. Il y en a beaucoup de choses qui peuvent nous tracasser. Bien sûr, il y a aussi la question de la vie professionnelle ou des choses comme ça, de la vie vraiment avec quelqu'un, donc il y a aussi toute la vie matérielle. Mais voilà, donc avant un peu de se lancer à désirer concrètement peut-être vivre ensemble, comment est-ce qu'on peut apprendre à connaître l'autre? Et pour des chrétiens, puisque nous sommes aussi dans une émission où nous abordons les choses du point de vue de vis-à-vis de Dieu, quelquefois il y a cette question, est-ce que Dieu me veut avec cette personne? On peut entendre ça quelquefois. Est-ce que c'est mon destin, ma destinée? Voilà, il y a des choses comme ça. Dieu a-t-il un plan pour moi avec cette personne? Et donc, du coup, ça fait peur, tout ça, un peu. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Paul Sauzède?
En tout cas, c'est, le thème des peurs est intéressant, surtout assez paradoxalement, au moment où on est tellement joyeux, léger, porté par l'amour, je trouve que c'est important de dire, bah oui, il y a aussi des peurs. Alors, est-ce que l'amour que je rencontre, cette femme que j'aime, qui me porte, cet homme qui m'attire, qui me séduit, est-ce que c'est le plan de Dieu ? Je crois que c'est, ça n'est que l'interprétation que je peux donner sur cette pulsion, sur ce désir, sur cette, j'allais dire cette volonté, sur cette fausse volonté que j'ai, parce que ce n'est pas vraiment moi qui veux, il y a quelque chose en moi qui veut et qui pousse. Et je peux dire, bah oui, c'est un plan de Dieu. C'est une interprétation qu'on peut donner sur sa vie, et pourquoi pas ? Qu'est-ce qui fait que je choisis cet homme-là ? Qu'est-ce qui fait que c'est cette femme-là qui vient à moi, vers qui je vais, et vers qui nous nous sentons attirés, comme une force qui est au-delà de moi, au-delà de nous-mêmes, qui nous prend et nous propulse l'un vers l'autre, et l'un et l'autre ensemble. Pourquoi pas ? Et une fois de plus, ça peut être aussi des jeux inconscients, c'est une autre lecture. Ça peut être des jeux pulsionnels et biologiques, c'est une autre lecture. Ça peut être des jeux par rapport à nos histoires familiales, c'est encore une autre lecture possible. Mais bien sûr, quand je m'engage dans une relation amoureuse, oui, il y a des peurs. Je dirais, plus on avance dans la vie et plus les peurs peuvent être présentes, mais elles peuvent exister dès le jeune âge. Par exemple, si je viens d'une famille à transactions violentes, eh bien je peux avoir peur de reproduire avec mon conjoint ce que j'ai connu de la part de mes parents, de mon père violent, de mon père contre ma mère. Et je me dis, mais surtout, je ne veux pas reproduire ça. Et une de mes vigilances, ça va être de ne pas reproduire ce couple-là, que je sois un garçon, pour ne pas être comme mon père, si c'est lui qui a été violent, ou ce soit, que je sois une fille, en tant que fille, de dire « je ne veux pas trouver un homme qui ressemble à mon père ». Donc on est encombré avec ça. Mais je peux être aussi encombré par le divorce de mes parents qui s'est mal passé. Mais je peux aussi être libéré par le divorce de mes parents qui s'est bien passé, de me dire « bon, je m'engage, mais ce n'est pas un enfermement, ce n'est pas une prison, parce que je peux aussi avoir le choix de me dégager, de retrouver ma liberté, de redonner celle de mon conjoint. On n'a pas à s'enfermer mutuellement ». Ce qui est intéressant, c'est de regarder que je ne peux pas faire sans mon passé qui est là, qui est présent, et que, comme on l'avait déjà explicité un peu dans une émission précédente, je vais soit par rapport à mon histoire passée faire de la reproduction, c'est-à-dire je risque de répéter, y compris même ce qui a pu me blesser, et malgré moi, soit je vais réparer, c'est-à-dire je vais essayer vraiment de choisir le contraire de tout ce que j'ai pu vivre ou subir dans mon histoire d'enfant. Donc bien sûr, si j'ai eu des modèles parentaux qui ont été particulièrement agréables, chaleureux, une vie famille joyeuse, ben je vais avoir envie de prolonger ça, de le continuer, de trouver un partenaire qui voudra aussi une famille nombreuse, qui voudra prendre des temps de fête, comme j'en ai tellement connu dans mon histoire d'enfant. Donc je voudrais reproduire ça parce que c'était ça mon modèle. Puis l'homme, la femme que je choisis me semble être vraiment prête à ça. Et si elle ne le fait pas au bout de 3 mois, 3 ans, ou 6 ans, ou 10 ans, ça risque d'être une grande déception et ça va générer une crise à nouveau. Voilà, et une fois de plus, un couple existe à partir du moment où il a su traverser des crises. Tant qu'il n'a pas de crise, je dirais, je ne sais pas si le couple existe, c'est une rencontre joyeuse, amoureuse. Moi, je crois beaucoup à la vertu des crises comme étant un des espaces de confrontation, de discussion et de construction du couple.
Parce que s'il n'y a pas de crise, du coup, tout est beau, on a l'impression que tout est beau, ben et que tout se passe bien, mais en fait, peut-être qu'à l'intérieur, il y a des choses qui ne vont pas si bien, mais on n'ose pas les montrer.
Le risque, c'est que le couple dise « non, mais nous, on s'aime, de toute façon, tout va bien, il n'y a pas de crise ouais. ». Et quand il y en a, on ne veut pas les voir,
oui,
parce qu'on est aimé, parce qu'on est aimant, parce qu'on est amant, et donc on ne veut pas écorner l'amour, donc s'il y a une forme de déni. Mais ça, en général, ça ne tient pas très longtemps. Parce que du coup, ça veut dire que par derrière, un des partenaires va faire un peu ce qu'il veut, y compris d'avoir des relations extra-conjugales. Il va pouvoir se passer des crises sournoises, des jeux de pouvoir parfois un peu pervers, parce qu'on ne veut pas regarder la réalité en face, on ne veut pas la dévoiler, donc elle reste cachée, masquée, mais elle est d'autant plus perfide.
Ça peut venir aussi du passé des parents.
Ça peut venir aussi des modèles
familiaux.
Qui peut-être
ne parlaient pas. Peut-être parlaient tous les deux, mais pas devant les enfants, ou ne disaient rien, ou faisaient comme si tout était très bien. Mais en fait, des fois, les enfants, ils sentent des choses aussi qui ne vont pas. Et donc, du
mais
coup,
ne sont pas
ils restent avec des interrogations qu'ils n'osent pas dire.
Exactement.
Donc, ils reproduisent ça aussi dans le choix du partenaire ou dans la relation qu'ils sont en train de construire. Et ça, c'est vraiment... C'est quand même embêtant.
On est
un couple sans vraiment être un couple, du coup.
Exactement.
C'est ça.
Ça devient vite un handicap, même. d'où peut-être une des règles de précaution que peut avoir un couple, c'est de vérifier comment ils arrivent à se parler. Et ça, on peut, dès la rencontre amoureuse, vérifier au-delà de l'attirance, au-delà de l'admiration qu'on peut avoir, au-delà de l'attachement incroyable qui se développe, c'est de regarder est-ce qu'on est capable de se parler et qu'est-ce qu'on est capable de se dire. Est-ce qu'on peut se dire aussi ce qu'on n'ose pas se dire? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se dire ce qui nous gêne? Est-ce qu'on peut se dire ce qui nous blesse? Est-ce qu'on peut se dire les attentes que l'autre ne comprend pas ou n'entend pas, mais que j'aimerais quand même qu'il entende? Et jusqu'où j'ose dire sans attendre et me dire non, mais un jour ça viendra, un jour j'en parlerai, un jour il changera, il entendra ou elle entendra. Non, non. C'est si on est dans cette phase de préparation du couple... C'est bien, là, dans cette période de la Saint-Valentin, de parler de ça aussi. Si on est dans cette phase de la rencontre amoureuse, c'est important d'aller vérifier comment on se parle. Mm-mm. Et est-ce qu'on est capable de se parler? Et jusqu'où? Et de quoi? Mm-mm. Alors, moi, je ne crois pas que dans un couple, il soit important de tout se dire. Parce que je continue à penser que dans un couple, c'est d'abord deux individualités qui se constituent. Pour moi, un couple, ce n'est pas 1 plus 1 égale 1 ou 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3. C'est vraiment, ça défie les mathématiques, c'est vraiment, le couple est au-delà du rassemblement des deux personnes. Mais dans cette complétude du couple, il y a besoin que chacune des individualités continue à exister. Et donc, on n'a pas besoin. C'est pas une obligation dans un couple de tout se dire. Mais qu'est-ce qu'on accepte que l'autre ne me dise pas? Comment j'accepte que l'autre soit singulier, qu'il reste lui-même, et qu'il puisse avoir ses secrets, et que pour autant, ça nous empêche de parler, de nous connaître mutuellement. Mais faut-il tout se dire? C'est une vraie question pour un couple.
Il y a une question de la confiance, là, du coup.
Alors, c'est aussi une question
de confiance. Malgré tout.
Mais oui.
Même si la personne même nous dit non, là, ça, j'ai pas envie de te raconter ça parce que c'est trop difficile. Ou...
Il y a des couples tyranniques entre eux parce qu'ils veulent tout savoir de l'autre. Au point parfois d'être violent dans une exigence de dis-moi, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as vu, qui tu as vu. Mais non, mais tu as souri à un tel, oui, mais tu as acheté ça, mais pourquoi tu as acheté ça, et pour qui, et pourquoi, et avec quel argent, et pour faire quoi. Enfin, il y a parfois des tyrannies qui peuvent avoir un côté, dans un premier temps, séduisant, parce que ça dévoile l'intérêt qu'une personne porte pour son partenaire ou sa partenaire, mais en même temps, c'est un intérêt qui devient tellement tyrannique, épuisant, qu'il devient parfois destructeur.
Oui, il y a la question de la jalousie, du coup.
S'infiltre la question de la jalousie, tout à fait.
La jalousie, de la possession, en fait. On voudrait posséder l'autre.
Tout savoir de lui, tout connaître, tout gérer.
Il y a la grande peur de pas être aimé totalement tel qu'on est, ou je sais pas très bien quelle est la peur là derrière.
C'est encore des peurs en tous les cas de délaisser, d'être abandonné, parce que l'autre pourrait avoir un monde à part dont je serais exclu. Mm-mm. Il pourrait se vivre des choses dont je ne serais pas informé ou auxquelles je ne participerais pas. Et du coup, comment j'existe? Quelle place je vais avoir? L'autre pourrait exister sans moi. En tout cas, moi, j'existerais seul et donc je vais être à nouveau abandonné. Mm-mm. C'est aussi une des problématiques du choix du couple. Hein. C'est qu'est-ce que je viens faire un couple? Est-ce que je lutte contre mon angoisse de solitude? Est-ce que je lutte contre mon angoisse d'abandon? C'est-à-dire d'être complètement seul et que personne ne s'intéresse à moi. Est-ce que je lutte contre mon angoisse de mort, qui est que je suis ma propre finitude, rien après moi ne pourra subsister, donc j'ai besoin d'avoir un compagne, une compagne, un compagnon, des enfants, prolonger mon existence. Qu'est-ce qui vient la mobiliser pour que je sois avec un autre et avec une autre? Et c'est vraiment intéressant ces questions, parce que on est dans une société où aujourd'hui il y a presque autant de célibataires que de gens en couple. Donc c'est énorme. On a eu ces réflexions politiques sur le taux de natalité. On s'interrogeait pourquoi en France il y a une baisse de la natalité. C'est aussi lié vraisemblablement à l'augmentation du nombre de célibataires qui donc n'ont pas fait le choix d'avoir des enfants. Et ça, ça génère bien sûr des angoisses de solitude, ça génère de la liberté bien sûr, chacun peut faire ce qu'il veut de sa vie, mais ça génère aussi des angoisses de solitude, des angoisses d'abandon, voilà, et plein d'autres questions sociales bien sûr, mais c'est pas notre sujet.
Oui, voilà, donc comme vous voyez, il y a encore plein d'autres sujets.
Exactement.
Exactement ce que nous dit Jean-Paul Sauzet maintenant. Il y a la question du célibat par exemple, ça pourrait faire presque une seule émission. Et la question donc, nous en sommes à peu près à la décision de l'engagement et qu'est-ce qui s'y passe après. Donc nous verrons une autre fois l'engagement, le couple, peut-être les étapes du couple. Et
la vie du couple.
La vie du couple.
Comment
voilà.
Être en couple.
Et puis, vous savez aussi que vous pouvez nous interpeller si vous voulez. Vous pouvez laisser des commentaires sur le podcast. Vous pouvez peut-être m'appeler ou appeler Jean-Paul Sauzet pour dire certaines choses au sujet de nos émissions. Et nous en serions ravis. Et peut-être des sujets d'émissions futures. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais nous vous souhaitons une bonne continuation et au mois prochain pour la suite du couple. Merci Jean-Paul.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.